Rebonjour. Cette année, en 2021, la Fondation MIRA célèbre ses 40 ans. MIRA est une institution assez bien connue dans la communauté du handicap visuel au Québec et au-delà des frontières du Québec. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Nicolas Saint-Pierre, qui est directeur général et à titre de fils du fondateur, M. Éric Saint-Pierre. M. Nicolas Saint-Pierre, vous avez grandi dans MIRA.
Absolument, absolument. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Oui, j'ai grandi. MIRA fait partie intégrante de ma vie depuis que j'ai l'âge à peu près de 5-6 ans.
Et aujourd'hui, au moment où on se parle, vous êtes maintenant rendu directeur général de la Fondation. Et l'année qui vient de s'écouler, les 18 derniers mois, ça a été vraiment un défi pour vous.
Ben comme tout le monde, hein, personne s'en sort. Il a fallu prendre des décisions difficiles. Il a fallu regarder qu'est-ce qu'on fait, attendre, être dans l'insécurité de qu'est-ce qui s'en vient. Donc effectivement, comme tout le monde, on est dans une aventure où est-ce que on est avec des chiens, on est avec des personnes aveugles, on est avec des personnes handicapées physiques, on est avec des familles qui ont des enfants qui ont le trouble de l'autisme. Donc, il a fallu décider, comment on donne les chiens? Est-ce qu'on peut continuer à donner des chiens? On le fait en sécurité autant pour notre personnel autant que pour les usagers qui viennent se chercher des chiens. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'insécurité, mais une journée à la fois, puis on est rendu aujourd'hui.
Parce que MIRA, c'est quand même une sacrée belle histoire. C'est parti de rien, puis vous êtes rendu, une référence dans les chiens guides. Et comme vous le dites, pas seulement les chiens guides pour les personnes qui ont des problèmes visuels, mais aussi pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, les personnes qui sont à mobilité réduite. Peut-être nous parler un peu de ces trois volets-là, parce que ça demande trois types de formations différentes.
En fait, MIRA est parti d'un besoin qui se passait au Québec dans le temps, puis d'un gars puis d'une fille qui sont mes parents, qui un qui était bon avec les chiens, puis l'autre qui était prête à suivre mon père n'importe où. Donc, ils ont décidé d'avoir cette idée-là de donner des chiens en français, premièrement, parce que ça n'existait pas au début au Canada. Toute l'expertise de l'entraînement des chiens guides, tranquillement, ça s'est bâti au fil des années avec des partenaires, avec des spécialistes en orientation mobilité, avec des psychologues, puis avec la création, puis du vouloir, puis beaucoup de travail. Tranquillement, la fondation est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, les chiens guides, c'est la fondation totale de notre identité, c'est-à-dire notre expertise au niveau des chiens, l'expertise au niveau de travailler avec les centres de réadaptation, de bien travailler avec les universités, avec des chercheurs. Donc, après ça, les chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite, ce que ça a impliqué, mais c'était la même chose, encore des spécialistes avec le même entraînement, mais avec différentes fonctions. À un moment donné, entraîner un chien à tirer un fauteuil ou à entraîner un chien à guider quelqu'un de non-voyant, il faut que le chien soit engagé de la même façon, il faut qu'il ait les mêmes tempéraments. Fait que le fond de la question est pas mal toujours la même.
D'accord.
Sauf que, évidemment, c'est les codes qu'on rentre dans les chiens qui fait que on a une différence de travail. Après ça, les chiens qui sont avec les personnes autistes, ils sont aussi montés sur la même philosophie, sauf qu'avec des besoins différents. Donc, tous ces programmes-là, ils sont venus au monde avec le même vouloir, c'est d'aider, de faire une différence, d'améliorer l'autonomie des gens. Puis, tranquillement, avec la passion, puis le travail qu'on fait avec notre élevage, avec la qualité de nos chiens, ça fait qu'on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui avec ces trois programmes-là.
Parce que vous avez développé un croisement, une race entre les Labradors et les Bernois.
Oui, on a travaillé avec les Bouviers Bernois, les Labradors depuis tant d'années. Puis on est on est en train de vraiment comme peaufiner le tempérament, puis tout le côté génétique qui est dans les aléas de l'élevage qui sont vraiment compliqués parce que bon, il y a beaucoup d'essais et erreurs malgré tout. Toutes les écoles de chiens guides nous le diront. Hein. Donc, on a travaillé avec ce chien-là qui fait que ben, ce chien-là, on aime beaucoup son tempérament, on aime beaucoup ce qu'il y a du Bouvier et du Labrador. Est-ce que ça a résulté comme chien, comme tempérament? Donc là, on est rendu avec le chien qui est un type Saint-Pierre, qui n'est pas une race. Mm-hmm. C'est pas une race homologuée. C'est vraiment un type de chien qu'on a décidé de développer puis qu'on fait ça avec le plus de passion et de rigueur possible.
Parce que ça doit améliorer d'avoir le même type de chien qui a les dispositions nécessaires pour bien faire ce travail-là. Ça améliore votre ratio de succès par centaines de chiots pour chaque 100 petits chiens. En ce moment, il y en a combien qui peuvent, qui aspirent ou qui réussissent à avoir une vie utile?
On est autour de 60 chiens. Mm-hmm. On a à peu près ça, là. 6 chiens sur 10 qui travaillent. Donc, qui est quand même un super bon ratio. Mais c'est surtout la qualité. Puis moi, puis toute notre équipe, on a vraiment un désir de vouloir, comme toujours, s'améliorer, l'amélioration de comment on donne nos chiens, de comment on les... comment on reçoit les gens, de toutes les interventions qu'on fait avec les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'améliorer, autant dans du côté élevage, puis autant au niveau que des services qu'on rend aux personnes qui viennent se chercher des chiens à la maison.
Parce que c'est une chose d'élever le chien en conséquence du travail qui va être appelé à faire, mais il faut aussi qu'il y ait un jumelage adéquat avec la personne auquel besoin le chien va répondre. Et ça aussi, c'est une partie qui est importante de ce que vous accomplissez. Il y a deux personnalités. Il y a le chien, mais il y a la personne aussi qui le reçoit.
Oui, puis c'est tout là que la passion et la magie du métier embarquent parce que c'est là que on sait si on travaille bien. Quand on rencontre les gens puis ils viennent se faire évaluer à la Fondation, c'est pas évaluer si les gens sont assez bons ou pas assez bons. C'est savoir si est-ce qu'on va être capable de donner un chien qui va tomber dans les besoins de la personne puis que ça va vraiment l'améliorer dans sa condition. Puis après ça, ben il y a la magie qui opère, les personnalités qui se rencontrent. Il y a plein d'histoires qui se passent. Puis c'est encore toujours surprenant, même que moi, j'ai grandi là-dedans puis j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. Ça reste quand même qu'à chaque fois, c'est bien touchant. Puis il n'y a rien de plus gratifiant que voir une personne partir avec son chien puis que on sent que l'équipe est solide puis qu'ils vont faire un grand bout de chemin ensemble. C'est ça qui est le fun de tout.
Vous avez, je pense, 1200 chiens en ce moment qui travaillent?
Sur la route, oui.
Mm-hmm.
Ouais.
C'est quoi le découpage entre les chiens qui sont guides pour des personnes handicapées visuelles, les jeunes autistes et les personnes à mobilité réduite? Parce qu'il y a quand même des activités qui ont commencé à naître plus récemment. Est-ce que ça donne quoi? Un tiers, un tiers, un tiers? Ou vous avez encore...
Non, pas tout à fait. Il y a plus de chiens pour le programme autiste parce que c'est moins long à entraîner. Mm-hmm. J'ai beaucoup plus de demandes.
Okay.
Donc, je dois être autour de... Je pense que j'ai 5 ou 600 chiens autistes. Pour pas autistes, mais 5 ou 6 chiens pour les personnes, pour les enfants qui ont le spectre de l'autisme. Puis après ça, je suis dans un ratio où est-ce que 50-50 entre les chiens d'assistance et les chiens guides. Là, donc, autour de, c'est ça, là, c'est 400, 600 chiens, 300 chiens à peu près dans chaque programme.
Mm-hmm. Et quel que soit le type de travail qu'un chien qui fait auprès d'une personne, que ce soit question de mobilité ou d'autisme ou d'handicap visuel, vous devez vous battre, vous aussi, je suppose, pour qu'il soit toujours admis dans les endroits publics, les taxis, les restaurants et les hôtels, parce qu'on entend toujours des histoires d'horreur, là, comme quoi ça...
Bien, comme en fin de semaine, là, on a encore une histoire qui est sortie. Pour moi, c'est complètement aberrant, puis on a vraiment un problème au niveau de notre société, identifier justement les chiens guides ou les chiens d'assistance qui sont morts en endroit public, puis que les gens ne savent pas si c'est un chien de travail ou pas. Puis ça, ça n'inclut pas juste la Fondation Mira, ça inclut toutes les écoles de chiens d'assistance qui sont dans ce métier-là, puis qu'on est obligé de se battre encore, puis que les usagers sont obligés d'aller en cours, puis que c'est des processus qui sont interminables, puis que finalement, il n'y a personne qui prend son compte. Fait que ça, absolument, ça, c'est encore un combat qu'il faut mener, puis je suis plus que déterminé, plus que jamais de de mener ce combat-là à bien.
Oui, sur votre site web, j'ai vu une petite capsule très parlante là, de l'histoire du rampant. Hein, on voit un jeune homme qui n'a pas l'usage de ses jambes et puis qui rampe dans les allées d'une épicerie, qui essaie de trouver le pain sur la tablette, puis d'aller à la caisse, puis à la caisse, il regardait comme s'il était moins que rien, parce que son fauteuil roulant n'a pas été admis à l'épicerie.
Exactement.
Et ça, c'est absurde, mais c'est la même chose. C'est la même chose que de refuser que soit présent le chien d'assistance. Alors, vous avez quand même, malgré les limitations que nous ont imposées la pandémie, été capable tout de même de servir ou de donner une soixantaine de chiens, je pense, cette année.
Absolument. On est bien fiers de ça. Ça, c'était... évidemment, ça, on a vécu... On vit tous sur la même planète. On a vécu de l'anxiété, beaucoup d'insécurité. Fait que le personnel de Mira n'a pas été différent des autres pour ça. Donc, évidemment, moi, j'ai vraiment tapé sur le clou comme quoi qu'il fallait continuer à donner des chiens. Il fallait pas arrêter. Il fallait s'assurer à la survie et à la pérennité de Mira dans le temps. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. Donc, je suis super content qu'on ait donné 60 chiens. Puis cette année, pendant mal an, mais on s'enligne. J'aimerais bien en donner autour de 90. Donc, malgré tout, on est là. Puis on continue à essayer d'aider notre monde le mieux qu'on peut, puis de façon plus professionnelle possible.
Parce que dans une année, entre guillemets, normale, c'était plutôt autour de 180-190 chiens par année qui pouvaient être placés. Mais là, ça dénote un certain rebond. Si vous passez de 60 à 90 sur une base annuelle, il y a également évidemment le financement parce que Mira est une fondation autosuffisante. Vos activités nombreuses ont été elles aussi malheureusement, je dirais pas bannies des lieux publics, mais oui, quoi, les lieux publics ont tout simplement été fermés. Ah, les tournois de golf, les cyclotons et ces choses-là, ça...
Exactement. Tout a été cancellé, donc c'est pour ça que je mentionne beaucoup d'insécurité dans l'air, mais je dois avouer que les donateurs, les bénévoles, tous les gens qui sont impliqués à la Fondation, de loin, de près, les familles d'accueil, tous ces gens-là nous ont jamais lâchés. Puis ça, je dois avouer que c'est bien rassurant pour le petit gars que je suis qui est continuer à opérer cette fondation-là pour essayer d'aider le monde, puis savoir que la population est en arrière de nous autres, les gens nous supportent, puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça.
Exact. Alors, on n'a pas besoin d'attendre de participer au tournoi de golf ou d'aller faire un cyclothon pour aider la fondation Mira. On peut simplement aller voir le site, constater ce que vous faites, puis être généreux en conséquence. Parce que au-delà de la pandémie, vous allez continuer de croître. Est-ce que vous avez des idées sur quel va être le Mira après la pandémie? Ça va être comme avant ou est-ce que ça va être différent?
Non, c'est sûr que comme tout le monde, je pense qu'on va vivre des différences. Puis je pense que ben là, c'est comme n'importe quoi. Hein? À un moment donné, tu regardes tes opérations, la façon qu'on travaille. Il y a des petits trucs à l'interne qu'on est en train de changer. On améliore des trucs. On a plus de temps pour réfléchir à, je sais pas moi, à des processus au niveau de nos opérations qui étaient peut-être moins optimales avant, puis on était étourdis par le rythme. Puis là, ça nous a permis un peu de respirer un petit peu, mais c'est vraiment des petits trucs qui font que, à un moment donné, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est essayer de donner des chiens. Puis je sais que je tape tout le temps sur le même clou, mais c'est vraiment le plus important, c'est qu'on serve notre monde qui vient à la Fondation le plus professionnellement possible, puis à la hauteur des attentes, parce que les gens ont des attentes, puis c'est normal. Fait qu'on est vraiment comme dédié à ça. Fait que le Mira de demain, je dois avouer que je suis plus en ce moment dans une navigation qui est à vue, c'est-à-dire j'essaie d'éviter les pièges que je vois. Puis après ça, quand on va commencer à pouvoir se faire une planification stratégique qui est plus à moyen et long terme, bien là, tranquillement, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient, parce que là, on a appris une chose avec la pandémie, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du
nez. Exact, tout à fait. Bien, M. Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, merci beaucoup. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que Mira va être là demain. Merci.
Absolument. Parfait. Merci à toi.
Merci, salut. Bonne journée.
Au revoir.